dans laquelle l'Église célèbre le Saint-Père du... dans laquelle l'Église célèbre le Saint-Père du premier synode œcuménique qui s'est tenu à Nicée, à côté de Constantinople, en 325. Et c'était l'empereur Constantin le Grand qui a ramené tous les évêques. Il y était 318 évêques qui étaient venus. Pourquoi ils étaient venus et pourquoi l'Église a mis dans l'Évangile ce discours du Seigneur dans lequel il explique un peu la relation entre lui et le Père. Dès le début du christianisme, il y avait beaucoup de gens qui avaient des opinions absurdes sur Jésus, sur Dieu. Il y avait beaucoup des évangiles qui sont des fausses évangiles, comme l'évangile de Judas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Marie-Madeleine. Il y avait beaucoup de livres qui étaient écrits, qui étaient tamponnés comme évangiles. Alors moi, j'ai écrit de n'importe quoi, j'ai mis évangile sur ça. Il y avait beaucoup de livres qui circulaient qui contenaient des bêtises. Et l'Église les a très facilement éloignés. Les Saint-Pères se sont rencontrés dans les synodes. Il y avait le Saint-Athanas qui a donné le canon de la Bible. C'était assez facile de rejeter toutes ces opinions parce qu'ils étaient, ils étaient clairement fausses. Ils étaient de manière blatante, ils étaient fausses. Ils étaient un peu de mixture entre le christianisme et les religions orientales. Il y avait des gnostiques, il y avait des gens qui pensaient que Jésus c'est un ange, qu'il y avait 20 niveaux de la création, il y avait 20 strata de la création. Il y avait beaucoup de bêtises que l'Église a très facilement écartées et a clarifié le canon de la Bible. Mais environ l'année 300, il y avait une autre controverse qui est beaucoup plus sérieuse, qui était beaucoup plus profonde, qui frappait vraiment à la racine de ce que le chrétien croyait. Et c'était un prêtre d'Alexandrie qui s'appelait Arius, qui s'est posé le problème qui est le Christ ? Qui est le Christ ? Et l'Évangile est clair, l'Évangile nous dit qu'il est le Fils de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire le Fils de Dieu ? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a un endroit où on lui dit « Vous êtes tous des fils de Dieu ». Alors, quelle est la relation entre Jésus-Christ et Dieu le Père ? Est-ce que c'est une relation de fils ? Est-ce que c'est une relation de fils au Père ? C'est une relation d'égalité, d'infériorité ? Quelle est la relation ? Et Arius, qui était d'abord un prêtre très pieux, qui était une personne très sérieuse dans l'église d'Alexandrie, très bien regardée, c'était un peu, disons comme Père Marc-Antoine dans notre archevêché, un prêtre le plus respecté de tous les prêtres dans certains endroits. Alors c'était quelqu'un vraiment très, très, très bien respecté, très sérieux. Lui, il pensait que comme le Père a engendré le Fils, il a pensé que peut-être il avait un temps dans lequel le Père existait et le Fils n'existait pas. Et à cause de ça, c'est logique, un parent qui engendre un enfant, il y a un temps dans lequel le parent existe et l'enfant n'existe pas, avant la naissance de l'enfant. Alors, il pensait que comme le Père, comme le Fils est né du Père, il y avait un temps dans lequel le Père existait et le Fils n'existait pas. Et la conclusion logique, c'est que Dieu, c'est ce que le Christ n'est pas égal à Dieu le Père. Et il y avait bien sûr beaucoup de niveaux d'arianisme, mais ça c'était l'argument le plus, disons, profond et le plus fort. Il y avait des gens qui disaient que le Christ était un homme, un prophète, le plus grand des prophètes, vraiment quelqu'un extraordinaire, mais quand même un homme. Il n'acceptait pas et alors il disait qu'il est créé, alors il était inférieur au Père. Des autres disaient que c'est le Fils de Dieu qui s'est incarné, il s'est fait homme, mais quand même c'est pas vrai Dieu, c'est le Fils de Dieu. Mais il y a une relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est une relation d'infériorité. Et contre ces opinions, tous les saints-pères qui sont venus à Nicée, tous les 318 pères qui sont arrivés à Nicée, ils ont dit non, c'est pas vrai, cette opinion, ils sont des bêtises. Le Christ est vrai Dieu, comme on dit dans la Credo, vrai Dieu, engendré et non créé. Encore une fois, la différence entre être engendré et être créé, nous sommes tous des créatures, le Christ est engendré, consubstantiel au Père. Et ça, c'était l'opinion D'habitude, chez nous, à Igny, il y a des avions qui passent de l'aéroport d'Orly, mais ici, je ne sais pas qui vient. Et ça, c'était le point de vue orthodoxe. Le problème est que le point de vue orthodoxe ne marche très bien avec la logique humaine. Parce que d'un côté, on a Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu. Après ça, le Saint-Père ont compris, Saint-Basile a compris que le Saint-Esprit est Dieu. Alors on a un Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on a trois dieux. Les orthodoxes étaient accusés par les Ariens d'être trithéites, d'avoir vraiment trois dieux. Alors comme les païens qui avaient 15 000 dieux ou les Indiens qui ont 40 000 dieux, les orthodoxes, ils étaient accusés par les Ariens d'avoir trois dieux, alors d'avoir pas un seul dieu. Mais nous, dans le credo, on dit je crois en un seul Dieu, et après ça, on dit, ok, Père est Dieu, Fils est Dieu, Saint-Esprit est Dieu. Alors, c'était pas trop logique. Et le Saint-Père, ils ont répondu qu'on ne peut pas appliquer à Dieu la mathématique et l'arithmétique qu'on utilise quand on dénombre des patates. Quand on dénombre des patates, on a une patate, deux patates, trois patates, on les met ensemble, en fait, on a trois patates. Ça marche, c'est logique. C'est comme ça que le cerveau humain que le cerveau des hommes fonctionne. Mais quand même, Dieu, il a fait le monde. Il a fait le monde et il a fait aussi la notion de nombre. La notion de nombre que le mathématicien essaie de la définir, la notion de nombre elle-même a été faite par Dieu. Et on ne peut pas utiliser cette notion de nombre qui a été créée par Dieu pour comprendre Dieu, pour exprimer Dieu. Alors, la seule mathématique qu'on peut utiliser pour Dieu, c'est de dire Dieu infini, Dieu au-delà de tout ce qu'on comprend. Et vous savez, dans la mathématique, quand on a infini plus infini plus infini, ça fait combien? Ça fait infini. Ça ne fait pas trois infinis, ça fait infini. Alors quand on additionne, on ne peut pas additionner des choses qui sont au-delà de notre compréhension. Et dans la mathématique, il y a une manière de faire la mathématique avec des choses qui sont au-delà de notre compréhension, comme c'est la notion de l'infini. Et pour Dieu, on ne peut pas utiliser le comptage des patates. On ne peut pas dire 1 plus 1 plus 1 fait 3. On dit infini plus infini plus infini fait infini. Alors on a un seul Dieu, en trois personnes, en trois hypostases, Père, Fils et Saint-Esprit. L'autre argument des Ariens, qui était que le Père a existé un temps avant que le Fils a existé, la réponse pour ça, c'est assez simple. Le Fils est le Verbe de Dieu. Là, c'est clair dans l'évangile de Saint Jean. Et dans l'Ancien Testament, quand il dit Dieu a dit que ce soit. Alors, quand Dieu crée le monde, il crée le monde par sa parole, par son verbe. Et les Saint-Père disent que c'est le Fils, c'est Dieu Fils qui crée le monde. Et comme il crée le monde, le monde contient l'espace et le temps aussi. Alors, le temps n'est pas une chose qui est absolue. Le temps n'est pas une chose qui comprend Dieu. Dieu est au-delà du temps. Le temps, c'est une chose qui s'applique seulement pour la création, pour notre univers en quatre dimensions, qui a commencé à Big Bang et qui va finir quand il va finir. Mais le temps est une notion créée aussi. Dieu n'existe pas dans le temps, Dieu existe au-delà du temps. Et à cause de ça, quand on dit que le Fils est né du Père, ça, ce n'était pas une naissance qui avait eu lieu dans le temps. C'est une naissance qui a lieu au-delà du temps. Alors, on ne peut pas même utiliser le passé ou le futur ou le présent pour ça, parce qu'on a le temps, on a le temps qui coule pour nous, et la naissance du Fils, c'est un événement qui s'est passé au-delà du temps. Et le Fils lui-même, il crée le temps, il crée les siècles. Alors on peut pas encore une fois dire que le Fils est inférieur parce qu'il est né. Parce que la naissance, encore une fois, c'était pas une chose qui s'est passée dans le temps. Mais de point de vue logique, encore une fois, revenant, alors si on prend les deux points de vue, le point de vue arien et le point de vue orthodoxe, c'est clair que le point de vue arien, c'est beaucoup plus logique. C'est beaucoup plus simple. Ça peut se fitter beaucoup mieux avec le cerveau humain que la doctrine orthodoxe. C'est beaucoup plus facile à comprendre, c'est plus logique, mais c'est faux. Et on peut dire presque que à cause du fait que c'est plus logique, c'est faux. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui inventent des religions. Il y a aussi dans le bouddhisme, il y a des hindouismes, en fait toujours, il y a des idées religieuses que les gens se forment, qui sont des religions inventées. pour que les gens ne comprennent pas comment les tonnerres font, marchent, alors ok, bon, il y a un dieu de tonnerre qui s'occupe de ça, il y a Zeus qui s'occupe de ça, il ne comprend pas comment les tremblements de terre passent, ok, c'est Poséidon ou je ne sais pas qui fait des tremblements de terre, pas Poséidon, Hadès, ou comment ça s'appelle chez les Grecs. Hadès, il y a Poséidon, on va dans la mer, il y a des tempêtes, ok, c'est Poséidon qui les fait. Les gens toujours essaient de mettre des dieux dans les endroits qu'ils ne connaissent pas. Il y a des religions fausses qui sont inventées par les hommes. Et le bouddhisme, l'hindouisme, et même l'islam, ils disent des choses qui sont logiques. Ils sont des choses qui sont comprises, que les hommes peuvent comprendre. Mais à cause de ça, on sait bien qu'ils sont fausses. Et encore une fois, tous les gens qui disent des choses, et le christianisme, c'est vraiment ça le truc qui fait le christianisme différent de toutes les autres religions, c'est le fait que c'est pas une croyance logique, c'est clair que c'est pas inventé par un cerveau humain. C'est une chose beaucoup plus compliquée, beaucoup plus vaste que le cerveau humain peut comprendre. Alors, encore une fois, le synode. Il décide et explique que la vérité, que le Christ est Dieu, c'est pas un prophète, c'est pas une créature. Ok, c'est un prophète, mais c'est pas un prophète comme les autres. C'est le Fils de Dieu qui est devenu homme. Et la relation père-fils, c'est une relation d'amour, c'est pas une relation d'infériorité. Deuxième question, comment les choses se sont décidées à Nicée? Vous savez, on célèbre aujourd'hui le premier synode œcuménique de Nicée. Comment est-ce qu'ils ont décidé des choses? Est-ce qu'il y avait une machine de vote comme au Parlement? Les gens appuient sur les boutons et disent ok, 300 oui, 18 non, ok, c'est passé. Non, c'était pas comme ça. C'était avec du consensus. Alors, consensus avec 318 évêques qui venaient de tous les parties du monde, qui étaient tous, parmi eux, ils ne parlaient pas tous la même langue, avaient tous leur agenda. C'est pas trop facile. Quelqu'un disait, c'est comme faire un troupeau de chats. Vous imaginez des chats, alors ok, les vaches on les met dans un troupeau, mais les chats on ne peut pas faire un troupeau de chats. Avoir tous ces évêques décider sur en unanimité, sur une certaine idée, c'était pas du tout donné. Et encore une fois, il y avait des partis, il y avait un contre les autres, il y avait même Saint-Nicolas, que la tradition de l'Église nous dit qu'il a, quand il a vu qu'Arius disait de n'importe quoi, il a frappé, alors il y avait des gens qui sont énervés. Un peu plus tard, c'est intéressant, si vous lisez la vie de Saint-Grégoire, le théologien qui était archevêque de Constantinople, il disait vraiment, Dieu garde-nous des invasions barbares, des tremblements de terre, des tempêtes et des synodes. Parce qu'ils sont vraiment des choses qui étaient dures. Ils n'étaient pas comme des très jolies choses comme on a vu l'année dernière en Crète avec tous les gens qui vont là, très pieux, parlent très bien. Non, ce n'était pas comme ça. Il y avait des gens qui étaient furieux. Il y avait un synode dans lequel, ok, ce n'était pas un vrai synode, c'était un synode qui était après ça infirmé par l'Église, dans lequel il y avait des moines d'Égypte qui sont venus avec des bâtons qui ont frappé le patriarche de Constantinople. Il y avait vraiment beaucoup de tensions pour les questions. Et pourquoi? C'était pas pour le pouvoir, c'était pas pour décider qui est le premier, Moscou, Constantinople, c'était pas pour décider des choses qui a plus d'argent. C'était vraiment parce que les gens étaient vraiment convaincus qu'ils comprennent la nature de la vérité, ils comprennent vraiment la vérité du christianisme. Alors c'est pour ça que les gens ils étaient tous insensés, parce qu'on parlait vraiment de la racine du christianisme. Et Arius, il était vraiment, sa doctrine attaquait vraiment aux racines du christianisme et essayait de réduire le christianisme à une chose logique, à une chose comprise par le cerveau humain qui était fausse. Alors il vraiment essayait de falsifier le christianisme et de le faire à part avec les autres religions, avec les Zarathoustiens, avec toutes les religions qui étaient autour. Si on fait des christianismes une chose logique, on le baisse au niveau des religions inventées par les hommes. Et c'était ça, c'était pas ça le christianisme. Mais comment alors ces évêques ont décidé-t-ils? Ils ont décidé parce que l'Esprit Saint était avec eux. Ils ont vraiment senti un pouvoir qui n'est pas un pouvoir logique, qui n'est pas un pouvoir compréhensible. Ils ont vraiment senti que l'Esprit Saint est descendu sur eux. Parce que vous savez, on a l'Esprit Saint qui vient en Pentecôte. Alors on a célébré l'ascension du Christ et on a le Pâques. Après ça, le Christ vit parmi les disciples. Et après à l'ascension, il ascend au ciel. Bon, Après ça, on a au Pentecôte, le dimanche prochain, on aura l'Esprit Saint qui descend. Mais on ne célèbre pas l'ascension du Saint-Esprit. On célèbre, on n'a pas d'effet dans l'Église orthodoxe, dans l'Église catholique ou dans les Églises chrétiennes de l'ascension du Saint-Esprit. L'Esprit Saint vient et il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous toujours. Et dans le synode œcuménique, l'Esprit Saint vient et il inspire les parents. Et parfois, il y a des dons qui sont validés par des miracles. Alors, par exemple, Saint Spyridon, qui était là, il était évêque de Tinnitus, il était quelqu'un de très simple. Il était un ancien berger. Alors, c'était pas vraiment quelqu'un intelligent, quelqu'un d'une grande ville. C'était vraiment un évêque un peu du village, quelqu'un qui vient, je ne sais pas, du Sauvigny-sur-Orge, quelqu'un un village assez loin, petit, avec. C'était pas quelqu'un bien, mais c'est lui par qui, par exemple, l'Esprit Saint a ouvert un miracle par lui. Il a pris un brique. Parce que les gens ne comprenaient pas comment le Père, le Fils et l'Esprit, ils sont même Dieu, même s'ils sont trois personnes différentes. Et il a expliqué, ok, regardez, on a les briques, on a le brique qui est fait par du feu, par de l'eau et par de la terre, et ils sont tous ensemble, ils forment une même substance. Et il a pris un brique, et il a fait le signe de la croix sur le brique, il a dit, le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il y avait le feu qui est parti, whoop, et l'eau qui est coulée, il est resté avec l'argile dans sa main. Alors il y avait des miracles comme ça qui sont passés là-bas, et c'était pas seulement, on n'a pas décidé sur l'orthodoxie contre l'arianisme par un vote, ou par quelque chose, ou par des manœuvres politiques. C'était vraiment le Saint-Esprit qui a inspiré les pères. Et c'est très intéressant, dans les actes du synode, à la fin du synode, il écrit, il a semblé à l'Esprit Saint et à nous. En roman, le mot c'est plus joli, parutusa duhulis svenchinova. Et parutusa, ça veut dire, c'est presque comme... On a l'impression, c'est presque comment dire, on a l'impression. L'Esprit Saint et nous ensemble. Alors il parle pas d'Esprit Saint comme une chose vague, alors ils disent nous et le Saint-Esprit. Ensemble, nous avons décidé. Et bien sûr, depuis ça, il y a eu des autres synodes, mais dans tous les synodes, la décision a été prise par consensus et par l'inspiration du Saint-Esprit. Et aucun évêque n'est jamais venu dire, ok, moi je suis le premier, moi je comprends comment les choses se font, faites, suivez-moi. Il y avait seulement dans l'année 1000, dans lequel, dans environ le premier millénaire, que l'évêque de Rome, il a commencé un peu à changer la manière dont les choses étaient faites. Il a dit, ok, moi j'ai plus de pouvoir que les autres, c'est seulement moi qui décide. Les évêques et l'Esprit Saint, ok, ça c'est pas trop relevant, c'est moi le chef. Et c'est comme ça un peu que l'Église catholique, elle a dévié pendant quelques centaines d'années vers l'infallibilité papale et des autres bêtises. Mais heureusement, récemment, surtout avec le nouveau pape, on voit aussi que dans l'Église catholique, il y a une prise de conscience du pouvoir des évêques. Du fait que quand les évêques sont ensemble, il y a la synodalité, il y a l'Esprit Saint qui vient. Et là, c'est ça que doit diriger l'Église. Le pape, bien sûr, c'est quelqu'un qui donne la direction. C'est pareil avec l'archevêque de Constantinople et avec les évêques qui sont importants. Mais c'est l'Esprit Saint qui vient sur les évêques. C'est ça le synode. C'est ça la manière dans laquelle l'Église fonctionne. Et c'est pour ça que les Russes, par exemple, quand ils ont traduit le credo en slavon, ils ne disent pas dans une église sainte, catholique et apostolique, ils n'utilisent pas le mot catholique. Ils utilisent le mot sabornaya, sabornichaska en roumain. Et ça veut dire l'église des synodes. L'église des synodes, mais l'église des synodes, ça veut dire l'église qui est conduite par l'Esprit Saint, qui parle par les synodes. Alors c'est l'église qui vit dans cette relation avec l'Esprit Saint par les synodes, et c'est ça qui donne la catholicité de l'Église, l'universalité de l'Église. C'est la vie du Saint-Esprit qui vient encore une fois, qui vit dans l'Église, qui descend en Pentecôte et qui est encore avec nous, qui est toujours avec nous, et qui dans le synode, il parle par la bouche des évêques. Alors, encore une fois, tenons forte la foi que nous avons reçue, et encore une fois, comprenez que c'est pas une chose, ok, c'est pas un détail. Il y avait vraiment le père qui était au synode qui était vraiment fâché, qui ont lutté. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Et ce père-là, il avait tous ces émotions très fortes parce que c'était la vérité qui était là. Et quand on a la vérité, quand on bâtit sur la vérité, après ça, il y a rien qui peut nous empêcher. C'est comme quand on fait la fondation de maison. Si la fondation est bonne, la maison reste. Si la fondation est mauvaise, on peut faire une maison en or. Ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Et c'est comme ça que la foi, elle est vraiment la fondation sur laquelle notre vie chrétienne est bâtie. Si on va bâtir une église, si on va bâtir une vie chrétienne sur une fondation qui est mauvaise, on peut la faire, ça peut tenir. Ça tient bien. Il y a beaucoup de sectes aux États-Unis qui sont bâtis sur du sable. Mais parfois, on voit qu'ils sont très bien. Mais dans le temps, ça tient pas. Dans le temps, ça ne tient pas. Et on voit vraiment, par exemple, avec l'église anglicane, qui est maintenant complètement en descente libre, parce qu'ils ont bâti sur du sable, c'est parce qu'ils ont bâti sur des idées qui n'étaient pas acceptées par le Saint-Esprit et par le Père, ils sont en train de s'écouler. Alors, encore une fois, tenez forte, et encore une fois, on doit prendre la conscience que c'est très important la foi, c'est très important, et c'est très important les choses que le Saint-Père ont décidé dans les synodes de communique. Avec la gloire dans les siècles des siècles. Amen.